C'est une page du judaïsme français qui s'est tournée le 10 avril dernier, au lendemain de Pessah, lors de l'enterrement de Rav Eliaou Abitbol au cimetière juif de Strasbourg. La disparition du fondateur de la yeshiva des étudiants marque aussi la fin de toute une époque, celle du retour massif à l'étude des textes juifs qui a touché la génération née après la Shoah et traversée par le frisson de mai 68. Rav Eliaou Abitbol a été un artisan majeur de cette révolution talmudique, rendue possible à la fois par sa personnalité hors du commun et par la puissance d'une parole qui a bouleversé en profondeur le paysage francophone de l'étude juive. Pour mieux cerner la singularité de son enseignement, nous avons la chance d'être en compagnie de l'un de ses élèves. Bonjour Raoul Spieber.
Bonjour.
Là, vous êtes en Israël, sur le campus de Bar-Ilan. Il se trouve que vous enseignez, que vous co-dirigez aussi Chemdat Hadarom, un séminaire d'études de la Torah pour jeunes filles dans le Negev. Et vous ne seriez pas arrivé là, je crois qu'on peut dire ça, si vous n'aviez pas fait la rencontre avec Rav Eliaou Abitbol. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est passée cette rencontre ?
Ah oui, c'est encore très frais dans ma mémoire, parce que c'est un événement qui compte pour moi. Je suis un juif de Metz, et il n'y avait pas d'école juive à Metz, et j'ai étudié 3 ans à la Yeshiva d'Exclémin, où j'ai fait mon bac, où j'ai aimé l'étude de la Gemara, mais où je ne me sentais pas tout à fait à l'aise. Et le Rosh Yeshiva, Rav Gershon Kahen, m'a dit « Toi, tu dois aller à Strasbourg, tu dois rencontrer Rav Abitbol. » Je suis arrivé à la Yeshiva et j'ai rencontré Rav Eliaou. Ça a été un moment très, très fort. Les shiurim de la semaine, le shiur du Shabbat matin, ce sont des paroles très, très fortes qui m'ont marqué jusqu'à aujourd'hui.
Alors, c'est intéressant parce que on dit souvent que la yeshiva des étudiants s'est construite dans le sillage d'un grand mouvement de teshuvah, d'un retour. Moi, je comprends de ce que vous dites que vous n'étiez pas un Baal teshuvah, vous n'étiez pas quelqu'un qui était sur le retour, puisque vous étiez déjà à Aix-les-Bains, qui est quand même une yeshiva très orthodoxe. Et pourtant, la rencontre avec Rav Eliaou, ça vous a bouleversé. Alors, qu'est-ce que ça a ouvert chez vous ?
C'est très compliqué pour un élève de parler de son maître et de réduire sa personnalité à quoi que ce soit, particulièrement pour Rav Eliaou. Mais je dirais que le premier sentiment que j'ai eu, c'est un sentiment de... C'est être confronté à quelqu'un qui cherche, qui creuse, qui n'arrête pas de creuser. L'hypothèse qui sort de lui, le présupposé qui sort de son étude, c'est que les textes ne nous apprennent pas des choses qu'on connaît déjà. Alors, ça a l'air de rien, mais ça crée une attente à ce que les textes nous disent tous quelque chose qui est au-delà de ce qu'on aurait pensé. Et ça, ça crée une demande, j'allais dire, et aussi des frustrations, parce qu'on n'arrive pas toujours à entendre quelque chose de nouveau du texte qui n'est pas ce qui nous ramène à ce qu'on connaît déjà. Ce qui fait qu'il y a eu, tout le monde a eu cette expérience-là d'un chiour qui a duré énormément, énormément. On a creusé, on a essayé d'entendre ce que le texte avait de singulier à dire, et on rentrait à la maison ou on rentrait chez des gens chez qui on était invités et on disait « Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Eh ben rien. Alors, les gens de l'extérieur, après tout, bon, ben, c'est un gourou, il vous fait tourner en rond et sans rien vous apporter, mais ce n'est pas rien du tout. Ce n'est pas rien du tout. Cette attente que le texte dise quelque chose qui est au-delà de notre zone de confort, de notre représentation du monde arrêté, c'était ça donnait une intensité d'étude très particulière. Ce bourdonnement du Beit HaMidrash où les gens parlent en même temps et s'entendent et s'engueulent, cette expérience d'écoute, elle était au cœur de ce rapport au texte, d'enlever les murs qui sont dans nos oreilles.
Cette intensité que vous décrivez, d'engueulade aussi dans l'étude, elle implique aussi une dose de violence. Il y avait aussi il me semble, chez Rav Eliyahu Habitbol, quelque chose de fulminant, quelque chose de volcanique. Est-ce que c'est nécessaire, en fait, pour entendre quelque chose ?
J'ai plusieurs fois eu l'occasion de discuter avec des gens à propos de ça, parce qu'il y a, dans ma vie, un peu partout où je suis arrivé, j'étais très, très rapidement étiqueté yeshiva des étudiants. Et alors, je ne m'en rendais pas compte, mais c'est comme ça. Ça fait partie probablement de ce que je suis. Et alors, les gens me disaient, mais nous, on a croisé le Rav Habitbol et on a entendu des propos fracassants, choquants, violents. C'est pas comme ça qu'un Talmid Chacham ça doit s'exprimer, il doit s'exprimer ben nachat. Pour moi, j'ai pu être bousculé par des paroles violentes de Rav Habitbol, mais j'ai compris qu'il n'y avait aucune intention de blesser et de vexer la personne qui était en face de lui. Cette violence, elle s'exerçait sur ce que les propos énoncés évoquent chez lui. Des propos énoncés qui, quand il sentait, par exemple, qu'on voulait ramener un enseignement à quelque chose de plat, de bidon, de conformiste, ça le faisait hurler. Ce n'était pas la personne, c'était cette réduction que les gens voulaient imposer au texte, voulaient aplatir le texte, voulaient tuer le texte. Il avait l'impression d'assister à un meurtre. C'est pas Rav Eliyahu, mais j'avais entendu quelqu'un d'autre qui disait, il y avait une Seouda Shlichit, il y avait une ambiance particulière, il y avait un chant, et il y a quelqu'un qui s'est mis, un Talmid qui s'est mis à parler pendant le chant, à bavarder. Et le Rav a dit, ne tue pas, n'assassine pas. Chez Rav Eliyahu, ça pouvait susciter des paroles violentes. Le sentiment qu'on aplatit, qu'on assassine, qu'on fait dire à la Torah des choses banales, des choses conformes, et parfois des choses qui sont véritablement contraires à ce qu'elle dit, ça lui faisait mal. Et c'est cette douleur qu'il exprimait, et c'est cette douleur qu'il nous communiquait, ce qui a fait que pendant longtemps, ça peut être aussi un problème, on avait du mal à entendre une autre manière de parler.
Pourquoi ça peut être un problème?
Toute autre manière de parler nous paraissait non authentique. Or, c'est pas juste. C'est pas juste. Rav Eliyahu lui-même n'avait pas ce défaut. Et je l'ai vu entendre des propos qui étaient vraiment à l'opposé de ce qu'il disait avec des gens comme Rav Gedalia Nadel ou comme Rav Nathan Schulman, les Gdolé à Torah qui sont venus à Strasbourg, les écouter avec une tension et une attention immense, alors que ce qu'ils disaient était le contraire de ce que Rav Eliyahu disait.
Alors ça, c'est absolument passionnant parce que j'allais venir un peu à la généalogie intellectuelle de Rav Eliyahu Habitbol. On sait qu'il était passé par Bnei Brak et qu'il était passé par le monde qu'on appelle aujourd'hui Haredi, le monde de Rav Volbeu, le monde des Yeshivot, qui l'ont envoyé ensuite en mission, si on peut dire, en France. Et il était en même temps, vous allez me dire comment il faut formuler la chose, et étant en même temps dans une fidélité, dans une filiation avec Bnei Brak, mais aussi dans une rupture. Comment ça s'articulait cette tension?
Je pense que vous soulevez là quelque chose d'important que dans les biographies de Rav Eliyahu, on n'évoque pas, c'est sa rencontre avec Manitou. Rav Eliyahu, je l'ai entendu dire plusieurs fois que celui qui lui a donné l'amour des textes, qui lui a donné l'idée que les textes de la Torah et des Chazal ont quelque chose à dire à la pensée, c'est Manitou, qu'il n'a jamais entendu quelqu'un qui faisait vibrer l'imam Aré Chazal comme lui. Et d'ailleurs, j'ai assisté à une visite de Manitou à la Yeshiva des étudiants, reçue par Rav Eliyahu Habitbol, on sait qu'ils ne sont pas dans le même mouvement, avec un infini respect de l'un pour l'autre. Donc ça, cette dimension-là, elle fait partie du personnage. Rav Eliyahu est un tourmenté de la vérité. Donc, ce qu'il a rencontré dans le monde de la Torah, que ce soit à Ber Yaakov avec Rav Olbe ou que ce soit au Kollel Chazon Ish, ce sont des gens qui sont effectivement insérés dans le monde de la Torah, dans le monde charédi, mais ce que lui, il a sélectionné chez eux, c'était leur amour de la vérité, leur amour de l'étude. Et quelque part, je pense qu'il a pris l'essentiel, un peu comme dit le Rambam, j'ai pris le Emet là où il est. Et alors le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, il se permet de citer Aristote, Platon, etc. Et ça fait scandale, on sait que ça va même lui être reproché, mais c'est, voilà, Rav Eliyahu est d'ailleurs un véritable rambamiste. Ce que Rav Eliyahu cherchait, c'était ce que ça ressemble beaucoup à ce que le Rambam cherche dans le Moreh Nevuchim, dans ce que Avraham Yeshua Heschel appelle, à propos du Rabbi de Kotz, le tourment de la vérité. C'était, je pense, quelque chose qui caractérise Rav Eliyahu.
Puisqu'on parle de Manitou, justement, et vous êtes en Israël, on voit derrière vous un drapeau d'Israël. Rav Eliyahu, comment est-ce que vous qualifieriez son rapport au sionisme?
Alors, c'est une question qui se pose et qui est délicate parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect institutionnel d'Israël que Rav Eliyahu n'aimait pas parce qu'il n'aimait pas les institutions, mais il n'aimait pas non plus les institutions de Torah. Même les institutions de Torah les plus hautes du monde charédi, la dimension d'institution. La dimension d'installation, d'autorité rabbinique, tout ça allait contre, pour lui, ce rapport de l'homme au texte, sans aucune institution, sans rien de lourd. Et donc, or, un État, c'est lourd. C'est des institutions, c'est des protocoles. C'est des partis politiques, c'est des arrangements comme ci ou ça. Ce n'est pas ce qui l'intéressait. Un peu de la même sorte qu'il n'a pas voulu écrire ses paroles. Tout ce qui était de l'ordre de la fixité était pour lui quelque chose dont il s'écartait. Et donc, Rav Eliyahu pouvait être hostile aux institutions, mais pas hostile au peuple juif, à tel point que c'est quelque chose de connu, ça a été rapporté d'ailleurs dans les Espédim de Rav Eliyahu qui ont eu à Strasbourg, j'ai pu entendre, rapporté par Guy Spingard, qui était élève à l'Yeshiva à ce moment-là. En 73, quand il y a eu la guerre de Kippour qui a commencé, elle a continué, elle ne s'est pas achevée à Kippour, elle a duré, elle a dépassé la fête de Soukhot. Et c'était un moment très grave dans l'histoire d'Israël, puisqu'il y a eu véritablement l'État d'Israël, le Yishuv Yehoudi, a été véritablement menacé. C'était en péril. Et Rav Eliyahu, à Soukhot, sentant que le peuple juif est en péril, a décidé de ne pas dire le Hallel à Soukhot. Ça a fait un scandale dans Strasbourg. Scandale, alors, les religieux, les moins religieux, les sionistes, les pas, tout le monde s'est scandalisé. J'ai entendu plus tard qu'Avelio dit lui-même, là-dessus, j'avais peut-être pas raison. Mais c'est pas grave, ça valait le coup. Il y a un passouk que Ravelio vous citait tout le temps. Vatehi yiratam oti. Mitzvat Anashim Melumada. Dit le prophète Yeshaya, ce qui va amener le Chorban, ce qui va amener la destruction, c'est que ça n'est pas l'infidélité, c'est que leur crainte de moi, Hachem, est une convention, une docilité aux règles fixées, dressées par les hommes. Yirat Anashim Melumada. C'est la fidélité à un dressage. Et ça n'est pas la Torah d'Hachem. La Torah d'Hachem, c'est de ne pas dire des mots qui sont un mensonge dans notre bouche. Voilà, ça c'est vraiment pour que les gens comprennent il y a pour Ravédéou ou un amour intense du peuple juif, ne pas dire le Hallel à Yom HaTzmaout parce que à Sukkot parce que le peuple juif est en détresse, c'est pas commun. Mais c'est ce qu'il vivait. Il y avait un amour du peuple juif et un amour de chaque juif qui était immense, qui faisait d'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi son côté Héli, c'est-à-dire son appartenance profonde au peuple juif dans sa simplicité. J'ai rencontré des Héli qui m'ont dit, ah, Ravédéou, Ravédéou, Ravédéou. Alors je me demandais, mais qu'est-ce que vous retenez, Ravédéou? Il dit, mais on n'a rien appris. On n'a rien appris. On a rencontré un homme de Torah qui aime les êtres humains.
Ça, c'est un aspect très important, effectivement, chez Rav Eliyahu Habitbol. Il y avait son enseignement, d'une part, mais il y avait aussi toute cette explosivité. Ses chants, sa façon de danser, ses éclats de rire, ça passait aussi par le corps en fait et par tout ce qui est sensible.
Oui, c'est une Torah où le corps a sa place. C'est une Torah existentielle. Et c'est d'ailleurs ce qui fait, ce qui est en jeu dans son étude aussi, c'est qu'il ne veut pas réduire l'étude de la Torah à une information. Parce que pour lui, c'est ça qui se passe, c'est ça qui le dérange dans l'écrit. C'est que d'un seul coup, tu transformes une leçon en information. En information qui circule dans les databases, dans les réseaux, dans tout ce que vous voulez, mais qui n'est plus quelque chose qui enseigne à l'humain. Et le rôle du corps est essentiel là-dedans. Les choses doivent être vécues par le corps. Il disait, votre corps n'est pas votre ennemi. Le corps, c'est Kadosh. Le corps, on l'enterre comme on enterre un Sefer Torah. Le corps est Kadosh. On vit les choses avec le corps. Et donc, effectivement, il vivait les choses avec une intensité et il engageait son corps dans ces choses-là.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à retenir, non seulement du rapport au corps, mais du rapport au temps chez Rav Eliyahu? Vous parliez des databases, justement, on vit dans une époque où tout va très vite, où on passe son temps à zapper, à aller d'une chose à l'autre très rapidement. Or, les cours de Rav Eliyahu duraient très très longtemps, ça pouvait durer 5-6 heures, parfois des nuits entières, avec des très très longs moments de silence. Sa façon de prier aussi, il priait très lentement, ça durait très longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à retenir aussi de son rapport au temps?
Oui, ça dit exactement la même chose. Ça dit que si on est en train d'énoncer des affirmations, on peut les énoncer très très vite. Mais si on doit les entendre, si on doit les vivre, si ces leçons ont quelque chose à dire dans notre vie, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis surtout, cette idée de ne pas écrire, de ne pas transformer la Torah en encore un livre, encore une revue, et encore, m'a rassuré. Il a inscrit la Torah dans la vie elle-même. Et la vie ne s'arrête pas. Et donc, il n'y a pas cette. Il n'y avait pas chez lui cette inquiétude qui aurait commandé, je ne sais pas, de fixer dans un mémoire, dans une thèse ou dans un monument ou dans quelque chose son idée, parce que ce n'était pas du tout ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était de planter cette graine de vérité dans le vivant, chez ses enfants, chez ses élèves, et ça, cette parole de Torah, elle circule et elle ne, c'est, elle, elle rejoint l'écho du Sinaï qui ne s'arrête pas.
Voilà, et puisque vous évoquez ces élèves, justement, j'invite tous les auditeurs, eh bien, à perpétuer cette vitalité de l'enseignement de Rav Eliyahu Habitbol en se rendant auprès de ces nombreux élèves en France, en Israël, au Canada, et de se plonger dans les textes. Merci infiniment, Raoul Spieber, et j'espère à bientôt pour de nouvelles émissions sur Academ.
Merci à vous.